Bonjour à tous. J'ai toujours beaucoup de joie de vous retrouver, de me trouver parmi vous. Aussi vous remercier parce que le dernier petit cadeau que vous m'avez offert, alors je l'ai amené dans une réunion de prière. Alors je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais tous les chrétiens étaient heureux, ils en ont mangé, donc c'était quelque chose à déguster. Et ils m'ont demandé de vous remercier parce qu'ils ont vraiment apprécié. Et donc voilà, je suis porteur des remerciements des chrétiens de l'église de Paris Nation avec lesquels je me trouvais ce fameux soir. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. C'est donc le prophète Ésaïe qui, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, a prononcé cette parole qui exprime un désir profond chez tout être humain. Voir Dieu. Parce que savoir que Dieu existe, c'est une chose. Maintenant, le voir et rentrer en relation personnelle avec lui, c'en est une autre. Et c'est justement dans cette période de Noël qu'il est intéressant de se poser cette question, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on est en train de faire à Noël? Vous savez que dans l'actualité française, toute récente, il y a tout un débat avec des lois qui interdisent, qu'il y a des crèches dans les mairies, il y a toute une histoire, pour essayer d'éradiquer en quelque sorte, de gommer, d'éliminer dans la fête de Noël l'origine même de cette fête, qui est la naissance de Jésus-Christ. C'est vrai qu'à l'origine, c'était une fête païenne, c'était une fête occulte, que l'Église catholique donc a remplacée par ce 25 décembre, le jour du solstice d'hiver, donc là où le soleil est le plus haut dans le ciel en hiver, le Jésus-Christ étant le soleil de justice, alors ils ont remplacé cette fête païenne par la naissance du Christ. Vous et moi, nous savons que le Christ n'est pas né exactement un 25 décembre, ça on le sait, ni même dans l'année en 2001, mais il est né probablement trois ans plus tard. Mais ce qui est important pour nous, c'est de découvrir dans l'Évangile et dans l'Épître de Jean que dans le fond, cette fête de Noël personnalise la venue de quelqu'un d'exceptionnel. C'est pour ça qu'il est question de la parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et puis il est dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On prend donc conscience par ces simples versets de l'importance de la personne dont il est question et donc de la personne de Jésus-Christ. Et puis l'apôtre Jean dans sa première lettre de dire, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Vous notez l'expression, la vie a été manifestée. Tous les gens se posent la question sur le sens de la vie. D'où vient la vie? Quel est le sens de la vie? Et voilà que l'apôtre, avec une simplicité tout à fait surprenante, est en train d'exprimer des vérités mais fondamentales et divines d'une amplitude extraordinaire. La vie a été manifestée et nous lui avons rendu témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. La vie éternelle. Voilà donc pour nous qui sommes chrétiens et dans cette période de Noël, lorsque nous aurons peut-être à répondre à des questions de nos amis, sachant que nous sommes chrétiens, et toi, qu'est-ce que tu fais à Noël? Qu'est-ce que tu as fait au réveillon? Quel est le sens de tout ça? Nous allons voir ensemble, effectivement, l'ampleur et l'identité de la naissance de cette personne. Est-il dans le fond possible de continuer chaque année à faire la crèche, à faire le sapin, à faire un bon repas de famille, à faire des cadeaux en ignorant tout le sens profond de Noël? En plus, le fait que les anciens, des générations donc passées, les hommes des générations passées, ont pris la décision de fixer le départ de l'histoire moderne à partir de la naissance de cette personne, de Jésus-Christ, ce qui dénote quand même une importance, cette décision de placer Jésus-Christ comme point de départ de l'histoire moderne. Vous savez qu'on va tout faire, et qu'on a commencé à le faire, On ne parle plus de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Hein. Officiellement, on dit avant l'ère moderne et après l'ère moderne. C'est extraordinaire comment on gomme le nom du Seigneur Jésus-Christ, même dans les expressions officielles. Quelqu'un a écrit la chose suivante. Il y a plus de 20 siècles est né un homme au caractère vraiment insolite. Un homme qui a grandi dans l'anonymat et la pauvreté. Il n'a pas beaucoup voyagé. Il n'a quitté son pays qu'une seule fois durant son exil au cours de son enfance. Il n'avait ni richesse ni position influente. Ses parents n'étaient pas célèbres. Il n'avait pas une formation reconnue. Il n'avait pas été à l'université, dans une académie particulière. Il n'avait pas fait d'études supérieures. Pourtant, à sa naissance, il a étonné un roi. Enfant, il a impressionné des théologiens à l'âge de 12 ans. Devenu homme, il a dominé les éléments naturels, a marché sur l'eau, a calmé les tempêtes et a guéri gratuitement des multitudes sans médicaments. Il n'a jamais écrit un livre. Et pourtant, les grandes bibliothèques de notre pays ne pourraient contenir tous les livres écrits à son sujet. Il n'a jamais composé un chant. Et pourtant, les chants dont il est le thème sont plus nombreux que tous les autres chants réunis. Nous venons d'en avoir l'expérience avec votre chorale. Il n'a jamais fondé une université, mais toutes les écoles réunies ne pourraient se vanter d'avoir autant d'élèves. Des milliards de milliards de milliards d'enfants de Dieu. Si tu peux compter les étoiles dans le ciel ou les grains de sable sur le bord de la mer, ta postérité, Dieu dit à Abraham, ta postérité sera plus grande. Nous appartenons à un peuple immense, un peuple de Dieu. Vous savez, il ne faut pas croire que nous ne sommes qu'une trentaine, là, ou je ne sais pas combien, dans ce temps plus terrien. Mais c'est extraordinaire d'appartenir au peuple de Dieu, myriades de myriades. C'est nous les plus nombreux, le peuple le plus important, et le peuple éternel, en plus. La civilisation, si je puis dire, éternelle, c'est nous, par la grâce de Dieu. Il n'a jamais pratiqué la psychiatrie. Et pourtant, il a guéri plus de cœurs brisés que tous les médecins du monde. Ce que je viens de vous lire est tiré d'un petit livre qui est paru il y a très longtemps, qui s'appelle « Le Christ incomparable ». De longs siècles ont passé, aujourd'hui Jésus-Christ est toujours au centre de la pensée humaine et le guide du progrès. Vous savez que nos grands philosophes reconnaissent, je pense à Luc Ferry, j'ai lu un de ses derniers ouvrages, il dit « mais dans le fond, l'humanisme est issu du christianisme ». La libération de l'homme et le respect de la vie humaine est issu du christianisme. C'est extraordinaire quand vous lisez les philosophes d'aujourd'hui, les philosophes humanistes athées qui veulent nous communiquer donc un humanisme spirituel, ils appellent ça la spiritualité sans Dieu. Ils sont là, c'est très intéressant de les lire parce qu'on voit qu'ils sont tordus dans leur âme, ils essayent de trouver une solution pour ne pas se soumettre au Seigneur, mais ils ne cessent d'en parler. D'ailleurs, dans les bouquins de Luc Ferry, vous avez un ensemble de versets bibliques, c'est tout à fait phénoménal. Je me dis que les gens qui lisent son livre, son livre, au lieu de les amener à l'athéisme, ça va les amener à la foi. Parce que vous avez des versets bibliques, c'est extraordinaire. Et puis on voit bien que l'auteur, il a une telle capacité à défendre le christianisme, tout en disant qu'il ne croit pas, que c'en est pathétique. De longs siècles ont passé, aujourd'hui Jésus-Christ est toujours au centre de la pensée humaine et le guide du progrès. Nous pouvons dire avec une entière justesse, que toutes les armées qui ont jamais combattu, toutes les forces navales jamais érigées, tous les parlements qui ont jamais siégé et tous les rois qui ont régné, n'ont jamais influencé l'humanité autant que la vie de ce seul individu. Qui est Jésus-Christ ? C'est la question que Jésus posa à ses disciples un jour dans un lieu à l'écart. Le texte inspiré nous dit, dans l'évangile de Matthieu, alors Jésus demanda à ses disciples : « Qui dites-vous que je suis ? » Après avoir posé la question « Qui dit-on que je suis ?», il en arrive devant ses disciples à leur dire « Qui dites-vous que je suis ?» C'est une question qui se pose aussi à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que nous disons quand on nous demande raison de la personne de Jésus-Christ ? Est-ce que nous ne savons pas trop quoi dire ? Est-ce que nous n'osons pas dire quelque chose ? Ou est-ce que nous avons nous-mêmes des interrogations ? Alors voilà la réponse à cette question. Qui dites-vous que je suis ? La réponse de l'apôtre Pierre ne se fit pas attendre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette déclaration de Pierre brosse le portrait de Jésus-Christ que nous trouvons présenté partout dans les quatre évangiles. Dans les quatre évangiles, qui sont en quelque sorte les seuls récits authentiques que nous possédions de la vie de cet homme. Son disciple Jean va jusqu'à dire, à la fin de son évangile, « Jésus a fait, encore en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean chapitre 20, et versets 30 à 31. Christ, comme vous le savez, n'est ni le nom de famille de Jésus, ni un deuxième prénom, mais plutôt un titre. C'est un terme grec qui est l'équivalent du mot hébraïque, le Messie. Depuis des siècles, les prophètes en Israël prédisaient la venue d'un homme choisi et oint. C'est le sens du mot Messie et de Christ, qu'il est oint, donc il a reçu une onction. Donc un homme choisi et oint pour être leur roi et sauveur. L'apôtre Jean ainsi que les autres évangélistes nous disent que toutes ces prophéties trouvent leur accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Pour avoir chez nous, à la maison, je l'ai déjà dit, deux études bibliques avec des non-chrétiens, des voisins, souvent, c'est ça la question qu'ils nous posent, mais pourquoi est-ce qu'on va choisir Jésus-Christ plutôt que quelqu'un d'autre ? Pourquoi est-ce qu'on va croire en lui ? Alors, vous voyez, ils avancent dans la découverte de l'enseignement biblique, mais ils sont toujours en train de se dire à qui est-ce qu'on va donner notre vie, à qui est-ce qu'on va se confier ? Et pourquoi le Christ et pas un autre ? Alors justement, la dimension prophétique est là pour aider à comprendre que Jésus-Christ est parfaitement unique, et le Fils unique du Dieu vivant. Toutes les prophéties trouvent leur accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Mais quand on écoute les évangélistes, donc les auteurs des quatre évangiles, Jésus n'est pas seulement le Christ, c'est-à-dire un personnage oint, il est aussi le Fils du Dieu vivant, qui existe de toute éternité et qui a participé à la création de l'univers. C'est pour cela que nous avons comme verset de référence « Et la parole a été faite chair ». C'est incarnation du Créateur. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle et tout ce qui a été fait par elle. Et donc c'est le Créateur lui-même qui s'incarne, qui descend sur la terre. Dieu le Fils, Créateur comme Dieu le Père et comme Dieu le Saint-Esprit d'ailleurs dans les Saintes Écritures. Donc, voyez tout ce que nous pouvons communiquer concernant la personne de Jésus-Christ. C'est le Fils unique du Dieu vivant et vrai. D'où l'importance aujourd'hui de revoir le sens de Noël. Cette fête est-elle seulement l'anniversaire d'un grand homme ? Ou doit-elle être l'occasion de commémorer l'intervention de Dieu dans notre monde, dans la personne de son Fils ? Vous savez, souvent, les gens nous disent « Mais Dieu, on ne l'a jamais vu. Dieu, on voudrait le voir. Dieu, il n'est jamais venu sur la terre. Dieu, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Personne ne le sait. » Alors, on leur dit « Bah si, Jésus est revenu. » Il y en a un. « Ah bon ? Qui c'est, Jésus ? Tu parles. » Mais si on leur explique l'histoire depuis le début, la naissance miraculeuse de Dieu qui se fait homme, c'est bien normal qu'il sorte vivant de la mort, de la croix. Donc, c'est un ensemble d'enseignements à communiquer à ceux qui nous entourent. Et c'est, je crois, là toute l'intelligence de ce qu'on appelle l'évangélisation. Partager, enseigner en toute douceur ceux qui ne connaissent pas encore ces grandes vérités. Jésus est certainement un homme qui a marqué profondément notre civilisation, ça c'est évident. Mais est-il plus qu'un homme? Serait-il réellement le Christ, le Fils de Dieu, le Créateur du monde devenu homme? Et c'est l'apôtre Jean qui, entre autres, va nous dire que il a une manière donc de répondre à cette question en disant que la réponse va déterminer le destin éternel de chacun d'entre nous. Quand on parle de Noël, on doit aussi parler du destin éternel de ceux qui nous posent des questions. C'est que Noël a un sens pour aujourd'hui et pour le futur. Aujourd'hui, pour être en paix avec Dieu, connaître une joie, une plénitude, et ensuite accompagné de la certitude de la vie éternelle. La venue de Jésus dans les prophéties. Les prophéties nous expliquent où le Christ doit naître. C'est le prophète Michée, dans son chapitre 5, verset 1, qui a été écrit à peu près 750 ans avant l'accomplissement, avant la naissance de Jésus-Christ. Le prophète Michée dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Ésaïe va nous parler des signes miraculeux qui vont accompagner la naissance de Jésus. Plus de 700 ans avant l'accomplissement de cette prophétie. Il est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et puis, dans les évangiles, il nous est dit, quand Joseph, le fiancé de Marie, prit connaissance de sa grossesse, il était prêt à rompre avec elle, mais un ange apparut pour lui rappeler cette prophétie. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » L'autre jour, nous étions en train de lire ces choses avec une voisine, dans le cadre d'une étude biblique à la maison. Vous savez, les gens sont captivés par l'évangile, par la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Ils écoutent. Alors, tout en lisant, ma femme lisait, moi je regardais notre voisine et je scrutais son visage, puisque c'est important de savoir d'essayer de distinguer ce qui se passe dans le cœur et dans l'âme d'une personne quand elle est au contact de l'évangile. Alors, elle était là, elle disait, quelle belle histoire. Et on sentait qu'elle était touchée. Alors, bon, elle revient régulièrement en études bibliques, hein, donc on prie pour son salut. Mais on voit les choses petit à petit se faire dans sa vie. Donc, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Vous voyez, référence aux prophéties. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. D'après cette prophétie, Jésus-Christ est Dieu venu en chair et en os pour vivre au milieu de nous par une naissance miraculeuse. Ça, c'est le message de base de l'évangile. Dieu est venu sur cette terre dans un corps semblable au nôtre. Le nom de Jésus, comme nous l'avons entendu, nous l'indique, car Jésus signifie en hébreu « Yahvé sauveur », c'est-à-dire « Dieu qui sauve ». Jésus est donc né pour délivrer l'homme des peines de ses injustices. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde surtout pour réconcilier Dieu et l'homme séparé de son Créateur à cause de ses péchés. L'apôtre Paul explique plus en détail ce que cela signifie pour nous. Lorsque nous étions encore sans foi, ce Christ au temps marqué est mort pour des impies. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, serons-nous réconciliés étant donc sauvé par sa vie. Romains chapitre 5, versets 6 à 10. Voilà ce qu'il faut enseigner à ceux qui nous posent des questions. Voilà ce qu'il faut présenter, exposer, parce que sinon les gens ils vont pas se rendre compte de l'importance de la venue de Jésus-Christ et du message de l'Évangile. Et puis il y a dans le prophète Ésaïe l'annonce de sa vocation, en Ésaïe chapitre 9, verset 6. « Car un enfant nous est né », vous savez que dans l'hébreu, on appelle ça un présent prophétique, ça n'a pas encore été réalisé, mais c'est tellement évident que ça va être réalisé que c'est dans un style qu'on appelle le présent prophétique. C'est-à-dire un présent pour parler du futur. C'est assez intéressant, c'est le principe même des prophéties, ça. C'est tellement évident que ça va arriver que certaines prophéties sont au présent. Et c'est le cas d'Ésaïe chapitre 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ça, c'est ce qui signifie, ce qui indique la vocation de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est dit en Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Et vous voyez, entre Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, et l'apôtre Jean, 90 après Jésus-Christ, hein, enfin, en tous les cas, pour les écrits johanniques, vous voyez, le même accord, le même message. Les écrits johanniques sont les écrits de Jean. L'apôtre Jean, parce que j'en vois qui sourit, alors, voilà. Prince de la paix, que ses disciples aient recours à la violence pour répandre son message ou même pour se défendre. Parce que souvent on nous dit, mais il n'y a pas pire tortionnaire que les catholiques. Ce que les musulmans font aujourd'hui, le djihad et tout, mais les catholiques l'ont fait avec les croisades. Alors nous, pauvres évangéliques, on se dit, oh, bon, qu'est-ce qu'on va dire? Mais non, on a quelque chose à dire, puisque suffit de reprendre la parole. Christ est le prince de la paix. Et Jésus n'a jamais accepté que ses disciples aient recours à la violence pour répandre son message ou même pour se défendre. Et même, plus loin, le Seigneur, en Matthieu, chapitre 5, verset 44, il dit, « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Je ne sais pas si vous voyez le contraste, hein. Et en Matthieu 5, 39, « Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Jésus est aussi le prince de la paix parce que par lui, nous pouvons être en paix avec Dieu. C'est une chose de ne pas avoir la paix avec un autre être humain. Et c'est déjà fatigant, hein, surtout quand on rencontre la personne assez souvent, ou si on dépend d'elle pour différentes choses. Mais c'en est une autre que de se trouver l'ennemi de Dieu. Vous savez qu'il n'y a pas une situation plus terrible que quand on se trouve dans la position de l'ennemi de Dieu. Et que Dieu résiste aux orgueilleux. Et quand Dieu se met à résister à un être humain, il n'y a pas pire situation que celle-là. Et c'est pour ça qu'il faut tout de suite plier le genou et reconnaître l'autorité de Dieu, car nous ne sommes que des créatures mortelles. Souvent, je dis ça à des non-chrétiens qui me racontent toutes sortes de choses, vous savez. Je leur dis, mais malheureux, vous ne vous rendez pas compte. Si vous résistez à Dieu, mais vous ne vous rendez pas compte, vous allez être littéralement écrasé par sa sainteté, vous allez partir en jugement. Alors, vous savez, ils sont là, oh, ça c'est des histoires. J'ai dit, écoutez, c'est écrit. Alors, vous savez, ils voient, on leur dit les choses gentiment. Hein. Je leur dis gentiment, mais je leur dis. Parce qu'il faut que l'épée de l'Esprit puisse être utilisée par le Saint-Esprit. Si jamais on dit rien, que vous voulez qu'il fasse le Saint-Esprit, si les chrétiens n'utilisent pas l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour dire la vérité. Alors, c'est très intéressant, parce que Luc Ferry, dans ses livres, il élimine toute notion de jugement. C'est ce qu'il raconte. Il dit la supériorité du christianisme sur la philosophie grecque, c'est que le christianisme nous apprend à ne plus avoir peur de la mort. Mais en réalité, on n'a pas que peur de la mort dans la Bible. On a peur de la mort parce qu'après la mort vient le jugement. Et dans les écrits de Luc Ferry, le jugement, jamais, ça apparaît jamais. Il est extraordinaire, ce grand philosophe. Il est incroyable. Mais ça vaut le coup vraiment de s'intéresser à tout ce qu'ils peuvent raconter parce que ça permet, pour nous, chrétiens, de faire de l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi, expliquer vraiment le danger que les hommes et les femmes de ce monde courent en résistant à Dieu. Eh, il me reste 3 minutes. Pourquoi Jésus est-il venu ? Jésus lui-même donna à plusieurs reprises une réponse à cette question. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je suis venu comme une lumière dans le monde, dit Jésus, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean chapitre 12, verset 46. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jean 12, chapitre 12, verset 47. Et en Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais les gens savent qu'ils sont perdus. Quand vous dites, vous prenez le temps de discuter avec eux, ils savent qu'ils sont perdus. Les gens savent qu'ils ne vivent pas dans la lumière. Ils le savent, et là on a les versets qui répondent à leurs besoins. Et ce cadeau est absolument gratuit pour tous, bien qu'il ait coûté très cher à Dieu lui-même. Mais c'est une offre gratuite. C'est extraordinaire ce que nous avons à annoncer aux uns et aux autres. Nous ne pouvons pas acheter ce don, on ne peut pas acheter son salut, on ne peut pas marchander avec Dieu, on ne peut pas arriver à s'en sortir tout seul. Mais nous ne pouvons pas l'acquérir par nos efforts et nos bonnes œuvres. Par définition même, il nous est offert sans que nous le méritions, un cadeau. Quand on vous fait un cadeau, vous ne le méritez pas toujours. Ça s'appelle une grâce. Par définition même, la grâce de Dieu ne se mérite pas. Justement, c'est ça le sens de la grâce. Néanmoins, pour l'avoir, il faut tout de même l'accepter. Dieu ne va pas nous obliger à nous tourner vers lui. Dieu nous offre le cadeau. Et il attend que nous le saisissions par la foi. C'est-à-dire, il offre son Fils, avec tout ce que cette offrande comporte et entraîne de mouvements, de transformations, de pardon, de vie nouvelle, de vie éternelle, de certitude que Dieu donne quand nous acceptons Jésus-Christ. Il y a un ensemble de choses qui simultanément nous sont accordées par l'Esprit de Dieu. Ce don est offert à quiconque croit, c'est-à-dire à tous ceux qui veulent bien tendre la main du cœur pour le recevoir en toute simplicité. Le message de la Bible est clair. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, vous me donnez la suite ? Vous me donnez la suite du verset ? Pardon ? Allez-y, donnez-le-moi. Donnez-la-moi. Presque. Jean 1, chapitre 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Eh, vous me les apprendre par cœur, ces versets-là, pour pouvoir justement les offrir à ceux que vous connaissez, à vos amis. Vous voyez le sens de Noël rapidement présenté. C'est extraordinaire le message qui est le nôtre. D'une part, et ce dont nous bénéficions en tant que chrétiens, nous connaissons, si nous sommes nés de nouveau, nous connaissons personnellement la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Puisqu'il est dit, comme je crois, c'est toujours là, ah non, là vous avez Jean 1, 14, mais vous rendez compte, car la vie a été manifestée, donc Jésus-Christ, et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, c'est-à-dire le Christ, et qui nous a été manifesté. Si nous sommes nés de nouveau, nous possédons la vie éternelle, et nous avons le devoir, par la grâce de Dieu, de partager cette vie éternelle, pour que d'autres puissent la saisir, et appartenir au Seigneur en se réconciliant avec lui par Jésus-Christ. Merci pour votre patience et votre écoute. Amen.